c'est ça, c'est l'unité de tous.
Alors, ce que j'aurais voulu personnellement, c'est parler de ça, mais pourquoi? Parce que nous en avions déjà parlé longuement en 1992, et d'ailleurs ça a donné une série de d'explications et de méditations. Et ça a donné ce petit livret que vous connaissez qui s'appelle Responsabilité Chalon, et qui est une somme, n'est-ce pas, extraordinaire. Mais que tout le monde, à ma grande stupéfaction, trouve trop compliqué. Pourtant, je crois que je pouvais difficilement faire plus simple. Mais c'est vrai que c'est les explications qui concernent la différence entre un petit garçon et une petite fille, entre la différenciation sexuelle. C'est quelque chose de tellement, de tellement intéressant. C'est intéressant. Pourquoi c'était pas une petite fille, hein? T'aurais pas aimé, hein? T'aurais pas aimé moi non plus. Et demande à Félicité. Pourquoi est-ce que t'es pas un petit garçon? T'aurais pas aimé, hein? Ah, t'aurais aimé toi être un petit garçon? Personne ne te regarderait. Petite fille. Et la Sainte Vierge, elle préférerait être. Quand la Sainte Vierge avait ton âge, est-ce que la Sainte Vierge aurait préféré être un petit garçon? Mmh. Ben non. Et pourtant, il y a. Parce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Peut-être. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Et tu vois, c'est ça, c'est cette question-là est assez dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des hommes, de ce qu'il y a eu des médecins, de ce qu'il y a eu des philosophes, de ce qu'il y a eu des théologiens, de ce qu'il y a eu des révélations aussi divines. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais sur cette question-là, un grand silence s'est imposé pendant des millénaires. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça parce que c'est un sujet, c'est une question qui est tellement enracinée en nous, tellement fondamentale, et en même temps aussi, dès que l'on veut la regarder un petit peu en face, elle fait remonter en nous des zones troubles à cause de la concupiscence. C'est vrai, est-ce que vous voulez, le petit garçon et la petite fille ne fonctionnent plus. C'est comme une horloge. Et dès lors que, voyez un petit peu que, d'ailleurs, qu'on voudrait réparer tout ça, on a peur parce qu'on a l'impression, en redémontant le mécanisme, n'est-ce pas, on a peur vraiment de casser tout à fait, n'est-ce pas. Déjà que ça ne va pas très bien. La concupiscence, c'est une chose terrible. La concupiscence, c'est une chose qui n'est pas commode. On ne peut pas maîtriser la concupiscence. Enfin, on ne peut pas la maîtriser. Non, par nos propres forces, on ne maîtrise pas la concupiscence. Alors du coup, on a un complexe à l'intérieur de nous, dès qu'on voit, dès qu'on est face, si vous voulez, à la nudité dans l'état de concupiscence, dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, si on est confronté immédiatement à une certaine nudité, sans préparation, tout de suite, il y a une montée de honte, une montée de pudeur et une distance qui se fait. Et elle est normale. Elle est tout à fait normale parce que nous avons une mémoire très profonde de ce que nous sommes, dans, inscrit dans, la, dans, dans cette différenciation masculin-féminin, est toujours, toujours, toujours présente à nous, du point de vue de la visibilité. Mais en même temps, on a une très très profonde mémoire de ce que c'est lorsque, lorsque tout est illuminé, lorsque tout est dans l'innocence, lorsque tout est sans perturbation, lorsque tout est immaculé, lorsque tout est divin. Dans l'incarnation de notre corps, on en a la mémoire, mais on sait qu'on est très très très... On est passé de l'autre côté du chemin. On est passé de l'autre côté. On s'est servi comme d'une... Bizarrement, on s'est servi d'une espèce de bras de levier. Ces gens qui vont sauter à la perche, ils courent, ils courent, ils courent, et ils sont servis pour sauter de l'autre côté de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et c'est vrai, on est passé de l'autre côté, on est passé du côté de la connaissance du bien et du mal, on s'est servi de la désobéissance, on s'est servi, si je puis dire, de ça, on s'est porté comme ça, par cette, une espèce de destruction de la liberté originelle du don de soi. Quand Dieu, avec la puissance de Dieu, à travers notre corps, on a perdu ça, et on ne peut plus retraverser la rive. Alors on a honte. Et c'est normal qu'il y ait une honte. Vous voyez, je ne fais pas, nous faisons la différence, vous voyez, entre la honte et la culpabilité. Le sentiment de culpabilité rend agressif. Tandis que là, ce sentiment de honte rend pudique. Il met tout de suite une distance. Donc on sait très bien, à cause de ça, il y a un deuxième phénomène qui est constant depuis des milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette question? Parce que dès qu'on soulève cette question, en même temps, forcément, on soulève les éveils correspondants d'une concupiscence qui n'est elle-même pas tout à fait réglée. Et du coup, on se dit, attends, si je soulève cette question-là, si j'essaie de la mettre sur la table, j'allais dire sur le plan spirituel, vous voyez? Sur le plan physique et spirituel, pas sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, il ne faut pas soulever ces questions-là. Parce que du coup, j'enlève la pudeur, j'enlève la honte. Psychologiquement, je peux. Je peux, dans une espèce de thérapie psychique, psychologique, psychothérapeutique, je sais pas, enlever un sentiment de honte. Un sentiment de culpabilité, ou du moins, plus exactement, je ne pourrais jamais l'enlever. Le refouler jusqu'en dessous du corps et en dessous de l'esprit. Je peux faire ça. Mais à ce moment-là, je dérègle définitivement la signification spontanée et la vocation de celui qui n'est plus perturbé et qui, du coup, va directement, il n'a plus de problème avec ça, et du coup, il n'a plus aucune liberté. Il perd complètement cette liberté originelle dans l'ordre du temps. Puis il est dans une liberté déchue dans l'ordre du temps. Pour ça, il ne peut pas y avoir de thérapie de la névrose sponsale, si je veux dire, blessée. Il n'y en a pas de thérapie en temps, psychologiquement. Et dès qu'on parle de ça sur un plan philosophique, spirituel, sur un plan purement, j'allais dire, de sagesse incarnée, de sagesse lumineuse, c'est-à-dire une vision de Dieu, comment Dieu fait et vit lui-même à travers notre don s'exprimant à travers un corps différencié, alors à ce moment-là, c'est vrai que quand on commence à rentrer dans cette grande, grande, grande révélation, grande grâce, grande lumière, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se soulève et qui fait peur. Alors c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait. Je crois que il me semble qu'on avait parlé un petit peu de ça la dernière fois. Je me rappelle plus ce qu'on disait la dernière fois. Mais c'est quand même... il me semble que la dernière fois, on avait fait une introduction. Et je vous avoue que je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Mais certainement que On a dit une chose, c'est que ce qui fait que... C'est pour ça qu'on pose la question à des enfants, est-ce que tu préférerais un petit garçon, est-ce que tu préférerais une petite fille? On s'adresse tout de suite. On s'adresse tout de suite à quelqu'un qui est seul. Il est unique au monde parce qu'il est un petit garçon. Il est unique au monde parce que c'est une petite fille. Dès qu'on est masculin ou féminin, aussitôt on est unique au monde. Le monde entier pour nous. La création tout entière est à moi. C'est pas parce que je suis un être humain. Ouais, on ne pose pas la question, est-ce que tu préférerais être un écureuil? Quelquefois, les enfants répondront oui. Est-ce que tu préférerais être un ange? Quelquefois, les enfants répondront oui. Mais si tu leur dis, est-ce que tu préférerais être un petit garçon? Un ange préférerait être une petite fille. Pourquoi? Parce que la différenciation sexuelle nous origine véritablement à la créature de Dieu, qui a créé l'homme à l'image et ressemblance de Dieu, pour récapituler l'univers en Dieu. Ça, on avait vu ça la dernière fois. C'est que si nous n'étions ni masculin ni féminin, nous n'aurions pas cette espèce de d'attraction, de capacité, de puissance métaphysique à travers le corps différencié, de récapituler, rayonner, recevoir en don l'univers tout entier pour découvrir cette solitude profonde qui structure notre cœur. C'est la solitude qui structure profondément le cœur masculin. C'est la solitude qui structure profondément le cœur féminin. Mais ça, je crois qu'on avait vu ça la dernière fois, la dimension de solitude. Si on est pleinement masculin ou pleinement féminin, alors à ce moment-là, nous sommes vraiment au cœur du monde, voilà pour la femme. Et nous sommes vraiment le centre du monde, voilà pour l'homme. Et les deux sont créés par Dieu ensemble. Ils ne sont pas deux, ils sont un. Parce qu'être le centre, c'est une chose. Être le cœur du monde, c'est autre chose. Le centre et le cœur du monde, c'est Dieu. Mais Dieu a voulu, en créant le monde, que ce soit l'homme et la femme. Et si tu es le centre du monde, il faut que tu sois aussi le cœur du monde. Et si tu es le cœur du monde, il faut que tu en sois aussi le centre. C'est pour ça que les deux à l'origine sont un. Alors, une fois que j'ai découvert par la prière, une fois que j'ai été au-delà du point de vue de ma manière psychologique, psychique, d'être présent au monde, d'être présent aux gens, d'être présent à ceux qui m'entourent, d'être présent à l'univers, à la nature, etc. Hein? Une fois que j'ai fait cette... Avec la grâce de Dieu, bien sûr, hein? Avec la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui imprègne totalement toutes les cellules de mon corps masculin, toute ma masculinité. Quand je suis envahi, quand ma féminité se laisse envahir totalement par Dieu, c'est extraordinaire. Et quand la divinité, quand la lumière divine a créé, créatrice, actuellement créatrice, envoie le corps de l'homme. La signification responsable de mon corps masculin. Là, ici, avec cette exigence d'être et de vivre ça, parce que c'est moi profondément dans l'origine et dans l'actualité, dans le temps, dans l'instant présent. Si j'accepte de vivre ça un petit peu dans la durée, vous voyez, je vais passer par exemple, 3 jours, jour et nuit, seul dans la nature, dans une grotte. Mais avec ça, et je vais durer comme ça. Là, je vais, alors forcément, il y a plein de scories qui vont sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement parce que j'ai peur. C'est pas parce que j'ai des angoisses, c'est pas parce que j'ai peur du danger. C'est pas parce que j'ai peur d'un démon, c'est parce que j'ai pas peur d'être agressé par un bruit. C'est pas tellement ça. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que je n'ai pas encore découvert le centre de mon cœur. Et découvrir le centre de mon cœur, ça me met dans une espèce de crainte. C'est tellement grand, la masculinité et la féminité. Et une fois que j'ai passé ces 3 jours et que j'ai laissé ces peurs disparaître, cette angoisse, parce que c'est un peu sous forme d'angoisse que ça apparaît, cette honte de ne pas être ce que je suis dans l'ordinaire de ma vie et qui s'exprime sous forme d'angoisse, une fois que tout ça a disparu et que j'ai découvert la solitude vivante habitée de moi-même, grâce à Dieu, hein, grâce à cette invasion, la présence de Dieu qui est en ce moment en train de créer et qui m'envahit tout en créant tout ce qui existe et en faisant de moi le centre. Une fois que j'ai découvert ça, une fois que je vis avec ça, alors j'assume, je prends avec moi, je respire, j'assume cette solitude profonde, divine, innocente et libre. C'est la première exigence, vous voyez, de la découverte de notre signification, de la signification sponsale de notre corps. Si je suis femme ou homme, je ne découvre pas ma masculinité ou ma féminité en vivant une certaine promiscuité. Dans le miroir de l'autre. Justement parce qu'au contraire, cette promiscuité, à cause de cette nature déchue, va accentuer le mystère de la honte, et qui va aller de plus en plus loin, des sources du paradis de l'homme. Mais une fois que j'ai découvert la signification profonde de la masculinité de mon corps, comme Dieu la vit, à travers mon corps, en créant tout ce qui existe, en devenant le cœur de toute la création, en devenant le centre, le roi de toute la création. Alors à ce moment-là, je peux découvrir la signification sponsale de la solitude profonde et vivante de ma moitié sponsale, de quelqu'un d'autre, qui est donné par Dieu à mon cœur comme ma moitié sponsale, comme un complément, comme une aide. Pour que ce soit la plénitude intérieure de Dieu qui puisse commencer à m'envahir, à agir, la grâce. Alors, une unité va être possible. Une unité humaine va être possible. Parce que l'unité dans la nature déchue est une unité honteuse. C'est une unité qui ne peut pas satisfaire. Qui ne satisfait jamais. Et pourtant, elle est objet qu'on ressent en nous, on le ressent en nous comme un désir insatiable. Ou comme une force instinctive irrépressible, autrefois. Et malgré cette force, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très, très, très prudent avec ça. On sait qu'il y a un danger. On sait qu'il y a une bombe et qu'elle peut tout détruire. Et on sait qu'elle est mal réglée. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. N'en parlons pas, comme ça au moins, ça n'explosera pas. Vous voyez ? C'est précisément ce que le pape Carole a proposé, qu'on commence à soulever le voile, précisément parce que nous rentrons dans les grands combats eschatologiques. Et cette fois-ci, c'est l'univers entier qui est mis en danger par l'homme. C'est pas seulement un pays ou une catégorie d'handicapés, ou de minoritaires ou de pauvres. C'est l'univers entier qui est mis en danger par l'homme. que l'univers entier est mis en danger par l'homme, il faut véritablement soulever le voile de la signification sponsale du corps. Pour la rédemption. Pour la rédemption de l'ensemble de l'univers. L'homme doit prendre possession de ce pourquoi il a été créé en servant son créateur. Et là, désormais, il doit être pleinement homme, il doit être pleinement femme. Et donc, tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi il faut parler de ça. Donc, il cherchait à être beaucoup plus simple qu'en 1992. Ne vous inquiétez pas, justement, j'ai fait exprès de prendre un truc très facile. Mais une fois, comprenez bien que si vous aimez quelqu'un, vous aimez par exemple, vous découvrez un amour, ça peut très bien aimer Jésus. Pour les chrétiens, c'est très très facile. Ça peut très bien un amour pour Jésus. Et découvrir que Jésus, c'est le cœur, c'est le cœur de toute la création, c'est pas compliqué. Il est plein de Rome, ça c'est certain. C'est sûr. Ça peut être Jésus, hein. Ça peut être Jésus. Ça peut être l'épouse glorifiée. L'épouse glorifiée de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, vous savez que Marie, dans son corps, a été, dans toute sa vie, tellement été habitée par Jésus. Et Jésus a tellement habité en elle que quand elle a été assumée au ciel, elle a une grandeur bien plus grande que la création. Puisque son corps féminin a épousé la grandeur du corps ressuscité du Christ, qui est beaucoup plus grand en vastitude, en dimension, en poids, que la création tout entière. Quand Jésus est ressuscité dans la phase, ça dépasse largement les dimensions de la création, en kilomètres. Largement. Et si bien que Marie, quand elle était assumée, elle reste pleinement féminine, évidemment. Et si vous voulez, un jour on le verra, déjà on peut le voir. Quand Marie est dévoilée, ça veut dire qu'elle est complète. La Jérusalem céleste, elle est complète. Elle est toute glorifiée. Et elle est la visibilité glorieuse et beaucoup plus vaste que l'univers. Que l'univers lui-même glorifié, parce que l'univers glorifié va entièrement en Marie, hein, elle en est enveloppant, et comment ? Ben, vous pouvez très bien, ça peut être Marie, ça peut être la femme toute glorieuse, toute victorieuse d'amour, toute dégoulinante de lumière et d'amour, qui est l'expression de la surabondance du rayonnement de l'homme, et qui nous est. Qui nous est donné par Dieu. On peut bien sûr vivre de cette. Il y a une interrelation entre le ciel et la terre grâce à la masculinité et la féminité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être refoulé sexuellement. Il ne faut pas être refoulé dans la signification sponsale de son corps masculin ou féminin. Ah, il faut être chaste, ça c'est vrai. Celui qui n'est pas chaste, c'est impossible. Il n'y a même pas la peine, sa vie est foutue. Et il faut découvrir dans la solitude profonde de son corps masculin, de son corps féminin, cette espèce de virginité intérieure qui se conquiert par la chasteté remplie de l'amour de Dieu pour faire, ça y est, je découvre ce que c'est que l'union. La communion des corps dans la communion des personnes pour l'expression totale de la liberté originelle du don avec la puissance de la grâce. C'est vrai. Il faut retrouver ça. Et c'est ce que le pape Carole demande. Il dit maintenant, il dit ça aux fils de Dieu qui sont sur la terre, aux fils de la femme aussi. Maintenant, Il faut mettre en place la signification sponsale du corps. C'est l'enjeu des temps derniers. L'esprit et l'épouse disent viens. Et nous devons dire avec le Saint-Esprit. Et avec l'Église, avec toutes les puissances de la grâce et de la gloire de Jésus, on doit dire viens à la signification sponsale du corps. On doit dire viens à notre féminité, à notre masculinité. Parce que le Père s'exprime de cette manière-là dans notre corps, en nous créant à son image et à sa ressemblance. Dès que on aura découvert par un miracle, c'est un peu vrai que c'est un miracle, si Jésus nous aide beaucoup, de découvrir cette solitude profonde, habitée, jubilante, insatiable, dans l'esprit de virginité. Voyez, on découvre à ce moment-là cette force, cette puissance du corps. Lorsque Dieu nous prend en main, est-ce que nous prenons en main Dieu lui-même? Et une fois qu'on est capable du coup de découvrir la signification profonde d'une solitude vivante habitée dans l'autre, et que nous pouvons vivre cette communion des personnes ensemble pour disparaître dans l'unité des deux, nous découvrons comment notre féminité, notre masculinité est créée par Dieu pour se nourrir comme d'une liqueur délicieuse. Et dans un écoulement délicieux du corps, de l'âme et de l'esprit, de la grâce, s'écouler dans cette unité qui dépasse. Et la masculinité et la féminité, en même temps où la masculinité et la féminité ne font que s'épanouir ensemble. Dans ce pourquoi ils ont été créés. Alors on découvre la signification sponsale du masculin, de l'homme, et la signification sponsale du corps féminin, dans l'unité des deux. On peut le dire avec des mots, mais vous comprenez bien ce que moi j'aurais voulu, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est proposer des exercices pour retrouver le centre de gravité de la puissance sponsale du corps, puisque nous avons déplacé le centre de gravité. Et pour ça, il faut s'aider, c'est ce que le Saint-Père propose, il faut s'aider de la vérité. Et la vérité est de la contempler. Et cette vérité, elle vient de la révélation. Et c'est Jésus qui nous révèle et qui nous enseigne comment tout a été créé. C'est pour ça que, vous voyez, le pape Carole, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, bon, ben, on va prendre le livre de la Genèse, puisque Jésus a expliqué ça à Moïse dans le chapitre 1, 2 et 3 du livre de la Genèse. C'est Jésus qui a expliqué ça à Moïse. Alors je reçois l'enseignement de Jésus, du Messie, lorsqu'il parle à l'entrée de la tente de réunion. Le montagne du Sinaï, il explique ça à Moïse. Et ça donne les tout premiers versets de la Torah. Et je vais lire, je vais contempler. Mais en même temps, Jésus ne cesse de s'exprimer à ceux en qui il a révélé la signification sponsale du corps féminin, c'est de s'exprimer à travers eux pour leur montrer de l'intérieur. Aussi sous forme d'image, qu'est-ce qui se passait. Alors, pour ça, j'ai choisi qu'on pourrait prendre, j'aimais beaucoup Saint Hildegard pour ça. Saint Hildegard avait eu beaucoup de choses extraordinaires sur les énergies de l'homme et la manière dont la femme recèle les énergies de l'homme pour les exprimer. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre. Puisqu'elle a été depuis 1992, il y a un événement nouveau, n'est-ce pas? C'est que Anne-Catherine Emmerich a été béatifiée donc, par le pape Carole, et elle parle de l'origine. Et je voudrais lire quelques petits passages, parce qu'au moins, ce sera un peu plus facile à comprendre. Enfin, à comprendre, pas à comprendre, mais ah, c'était comme ça. Ben, bien sûr, Si l'homme descend du stage, c'est fini. Vous pouvez continuer dans la débauche. La question est réglée. Donc, avis aux amateurs, si vous croyez que l'homme descend du stage, c'est terminé. Vous pouvez continuer dans la débauche, il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas rentrer ici dans les discussions scientifiques. Hein. Permettez. C'est de la blague. Alors. Bon, c'est, vous le saviez. Enfin, vous ne le saviez pas, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui a créé l'homme. Directement. Non, ça te déculpabilise de savoir que c'était finalement t'es comme un singe. En ligne directe. T'as été créé par le singe directement. Ah, ça te déculpabilise. Pour ça, j'étais si impressionné quand j'étais à New York au zoo, je racontais ça. Une espèce de gros plexiglas. Oh, 30 mètres près. Un pilote avec le King Kong qui était là, entre. Et là, ils regardaient, c'est eux qui nous regardaient. Parce que vous savez, plus on va, moins on est. Moins la signification sponsale est évidente. Et les bêtes le voyaient, ça. C'est ça qui était impressionnant. Je restais là, je me dis, c'est pas possible. Ils le voient. Ils voient que. Effectivement, il sait. Regardez ces hommes et ces femmes. Oh, il faisait comme ça. Et puis ça. Désespéré en voyant un homme de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que les hommes, vous comprenez, s'ils pensent qu'ils sont descendus directement du singe, c'est qu'ils sont pires que lui. Parce que le singe, lui, il n'est pas déchu. Et alors, on remet un peu plus de fraîcheur, n'est-ce pas ? Et puis, allons voir un autre zoo, n'est-ce pas ? Le zoo d'Anne-Catherine Emmerich, qui est extraordinaire, parce que c'est beau. J'ai vu qu'à Adam, fut créé non pas au paradis, mais à l'emplacement où devait par la suite s'élever Jérusalem. C'est le lieu de. C'est le centre. Je l'ai vu sortir éclatant et blanc d'une colline de terre jaune, comme s'il sortait d'un moule. Le soleil brillait, et je pensais, parce que alors que je voyais ça, j'étais encore une enfant, que c'est le jour qui avait fait sortir Adam de la colline. Il était né d'une terre vierge. Dieu bénit la terre vierge pour que cette terre vierge devienne sa mère. Il ne sortit pas d'un seul coup de cette terre. Il fallut quelques moments encore avant que ne puisse apparaître. Il était dans la colline, allongé sur le côté gauche, le bras replié sur la tête, avec une légère gloire, une légère nuée. Il le recouvrait comme d'une gaze. Et je vis une forme dans son côté droit. Une forme. Et je compris que c'était Ève qui fut tirée de lui par Dieu, non pas là, mais au paradis. Non pas là, à du remplacement de Jérusalem, de la mort et de la résurrection du Messie, le paradis. Tout ça, c'est croire, hein. Mais je le lis quand même. C'est pas obligé d'y croire, mais... Écoutons quand même. Écartons, oui, toutes les objections d'angoisse, oui, par rapport au monde positiviste, n'est-ce pas? Et évolutionniste. Écartons. Écartons, laissons-les tranquilles, et on va écouter cette petite fille. Pourquoi est-ce que j'écouterai pas cette petite fille? Petite fille, c'est intéressant. Et puis en plus, elle est béatifiée. Ça m'intéresse, moi. Moi, je suis pas béatifié, moi. Mon prof d'université non plus. Et pas béatifié. Ah ouais? Dieu l'appela. Et c'est au moment où Dieu l'appela que la colline commençait à s'ouvrir, cette terre vierge toute jaune, toute lumineuse. Et Adam sortit peu à peu. Là, il n'y avait pas d'arbres, hein, seulement des fleurs, toutes petites. Et j'avais vu également une autre fois les animaux sortir comme cela par la parole de Dieu de la terre et un par espèce et puis comme si les femelles s'en détachaient. Donc j'ai vu ensuite Adam emporté loin de là dans un jardin situé très haut sur la terre dans le paradis. Et Dieu conduisit les animaux devant Adam au paradis. Et Adam leur donna un nom. Ça, c'est beau, ça. C'est dans la Bible, hein. Et ils le suivirent. Et ils jouaient toujours autour de lui. Tout était soumis à Adam avant qu'il n'ait péché. Tout était soumis. Et elle n'avait pas encore été sortie de lui. Tous les animaux qu'il avait donné un nom avec Ève dedans de lui le suivirent plus tard sur la terre. Et voilà comment je voyais Adam dans le paradis. Il n'était pas loin de la source qui était au milieu du jardin. Il semblait sortir comme d'un sommeil parmi les fleurs et les plantes et était auréolé d'une lueur blanche. Mais son corps était vraiment un corps, c'était une chair vivante, c'était pas un esprit, il était plus proche de la chair que de l'esprit. Rien n'est vrai. Il ne s'étonnait pas de lui-même, il se promenait parmi les arbres, comme s'il était habitué à tout, comme quelqu'un qui respecte ce qu'il connaît depuis toujours. C'est Jésus qui l'habite, vous voyez. Il a la grâce originelle. Il est porteur du principe du Bereshit. Le Bereshit a été introduit en lui comme une bénédiction. Et de cette bénédiction sort la foi. Et donc il a la science infuse. Vous voyez, tout ça, je vous dis des choses comme ça au passage. Mais la science infuse, c'est-à-dire qu'il sait, il connaît de l'intérieur toute substance, toute chose. Et c'est pourquoi il lui donne un nom humain. Il humanise toute chose en lui donnant un nom. Parce que toute chose doit être humanisée dans la signification sponsale de la puissance de l'homme, puissance sponsale. C'est important de donner un nom. Alors, je voyais Adam allongé près de l'eau sous un arbre, le bras gauche replié sous la joue. Une autre fois, hein. Et c'est Dieu qui. Je vis Dieu faire tomber le sommeil sur lui. Et Adam fut emporté en extase. Alors, tandis qu'il était en extase, Dieu tira Ève du côté droit d'Adam. Et c'était à l'endroit même où Jésus fut plus tard percé par la lance. Et je vis Ève fine, toute petite. Elle devint rapidement plus grande. C'est extraordinaire, voyez, ce passage de Jérusalem au paradis, de paradis à Jérusalem. Satan est tiré, voyez, d'une terre vierge, d'une terre mère, d'une mère vivante, si vous voulez. Et puis il est emporté au paradis. Et c'est là que se prépare la torpeur. De la torpeur, il va emporter la torpeur du Christ à Jérusalem. C'est du paradis qu'il est emporté dans la torpeur. Son extase l'emporte dans le lieu où Jésus ouvre son cœur pour donner l'Esprit Saint. Il n'y a pas, puisque si la science infuse, il connaît toutes choses. Et dans l'extase, il voit. Et il sort du Christ. Parce que le cœur du Messie est un cœur qui s'ouvre comme Dieu dans la terre. Le cœur du Verbe de Dieu s'ouvre comme la transverbération de Marie. Et c'est de cette ouverture que sort Adam, c'est de cette ouverture que sort Ève. Et en même temps, c'est d'une extase, d'une tardema, comme dit la Bible. Torpeur, un ravissement. Ils sont ravis dans l'immense source du principe, du Bereshit, de la bénédiction qu'ils portent physiquement, dans l'unité des deux. Et qui est là. Attendez, quand je dis Adam, quand je dis Ève, c'est vous et moi, hein? Aussi. Par participation. Si je fais partie d'Adam, si je fais partie de... C'est beaucoup plus vrai, en réalité, du point de vue du corps, du point de vue spirituel, du point de vue métaphysique, du point de vue de la vérité, du point de vue de la conscience, du point de vue de pratiquement presque tous les points de vue, sauf du point de vue psychologique. Du point de vue du ressenti, non, ça c'est vrai. Ouais, avec la kinésiothérapie, vous ne trouverez pas ça. Ça c'est sûr. Voilà. Sophrologie. Faites la sophro, puis voilà. Ça vous échappera complètement. Mais avec la grâce, oui. Non, mais ça c'est ce que. Vous savez, c'est une des constantes des affirmations des pères de l'Église et de l'apôtre. C'est-à-dire que nous sommes corporellement présents par propagation à ce que vit Adam, à ce qu'est Adam et Ève, dans l'origine, dans l'innocence originelle. C'est pour ça, c'est pas du tout. C'est quelque chose qu'on peut contempler. Vous savez, quand vous contemplez quelque chose, vous redécouvrez dans une vérité originelle. Et vous inquiétez pas, Seigneur, fais en sorte que vous n'allez pas faire des interprétations idiotes, disant Adam c'est moi. Bien sûr. Mais la signification, le mécanisme, si vous préférez, de mon cœur lié au corps, à la grâce et à ma connaissance des choses, il appartient plus à ce que vit Adam qu'à ce que je vis moi psychologiquement, dans une nature déchue. C'est très important de comprendre ça. C'est ce que le Saint-Père, le Pape Carole, dit sans arrêt. On doit retrouver l'innocence originelle de la liberté du temps. Et pas dans la mesure où je ne le retrouve pas complètement, je prends le Christ comme rédempteur. Donc je me situe avec deux sources pour me retrouver dans la signification spontanée du corps, la liberté originelle du don. Je me retrouve moi-même dans la liberté originelle du don telle que Dieu m'a créé en Adam et Ève. Et en même temps, pour tout ce que je n'arrive pas à faire, à vivre, à mettre en place, à incorporer, à incarner, je prends le Christ, je prends Jésus, je prends Marie, je prends la grâce, je prends le fruit des sacrements, je prends le ciel ressuscité. L'Assomption. Pour bétonner là où j'y arrive pas. Mais je ne reste pas dans une nature déchue. Et je n'obéis pas aux lois de la concupiscence. Parce que je n'ai pas choisi de persévérer dans la déchéance. J'ai choisi de vivre de la victoire de l'amour surtout, et de ma mission. Alors, Dieu tira Ève du côté droit d'Adam, à l'endroit où Jésus fut plus tard transpercé par sa lance. C'est trop beau ça. Et vous voyez, c'est pas dans l'Ancien Testament qu'on va vous dire, voilà, on va retrouver la signification responsable du corps. Hein. Il fallait d'abord que Jésus et Marie aient été transverbérés, et que Marie soit arrivée à l'Assomption, pour que précisément il y ait ce visage possible dans notre terre terrestre. Et cette efficacité effective sur le plan du corps, de l'âme et de l'esprit, ben, de Jésus et de Marie ouvert. Dans la Jérusalem nouvelle. Sinon, le miracle de la mise en place de la, surnaturellement de la, et physiquement de la signification responsable du corps ne serait pas possible, vous voyez. Avant la proclamation du dogme de l'Assomption, impossible. Ça, c'est sûr. Je vis Ève, toute fine, toute petite, devenir rapidement plus grande jusqu'à atteindre sa taille définitive et être parfaitement belle. Sans le péché originel, tous les hommes seraient ainsi nés au cours d'un doux sommeil de torpeur. C'est extraordinaire de savoir ça. C'est très vrai, moi je le crois. Et en plus, c'est parfaitement exact, c'est l'enseignement de Moïse et des pères de l'Église, c'est que, effectivement, s'il n'y avait pas eu de péché originel, on aurait tous été originés à partir dans le Bereshit de la création du monde, dans lequel l'unité responsable de notre père et notre mère se serait introduite par tardement, par torpeur, par surnaturel extase, ravissement, incorporation, et on serait né comme ça. Un tel de ravissement, du reste, on a été conçu comme ça. Hein. Mais ce que dit, ce que je suis, ce que l'Esprit Saint, que l'ange enseigne à Anne, à Catherine Emmerich quand elle est petite fille, c'est que, pas seulement la conception, la naissance aussi, ce serait passé comme ça. Notre naissance. On n'est pas complètement loin de tout ça, puisqu'on a été conçu dans la torpeur d'une unité responsable dont nos parents n'ont même pas eu conscience. C'est Dieu qui l'a pris pour l'établir dans son principe. Et on est né du cœur de Jésus et de Marie quelque part, oui. On a été conçu 9 mois avant la naissance, c'est vrai. La colline se fendit en deux, et je vis apparaître du côté d'Adam un roc, comme composé de cristaux de pierres précieuses, et du côté d'Ève, une vallée toute blanche, toute immaculée, vous voyez, comme recouverte de petits fruits blancs et fins comme du froment. Comme c'est beau, c'est magnifique, hein, comme vision d'enfant. Et lorsque Ève était formée, vous voyez, formée, je vis que Dieu donnait, plutôt répandait quelque chose sur Adam. C'était comme si du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu émanaient, qui apparaissaient sous forme humaine, hein, s'écoulaient et émanaient des torrents de lumière. Se réunissait en un globe éclatant et ce globe entra dans le côté droit d'Adam pour remplacer. D'où Ève avait été tirée. Seulement Adam reçut ceci. C'était le germe de la bénédiction de Dieu. Et dans cette bénédiction, il y avait une trinité. Une triple présence de personnes. Il y avait trois barras. Des trois barras. Alors, les trois présences de la création de Dieu, de l'homme, de la femme, et de l'unité des deux, réalisant une nouvelle création. La bénédiction qu'Abraham reçut de l'ange était identique, apparaissant sous la même forme, mais elle n'était pas aussi lumineuse que celle d'Adam. Ève se tenait radieuse devant Adam et Adam lui tendit la main. Ils étaient comme deux enfants, indiciblement beaux, d'une noblesse incroyable. Ils étaient tout brillants, revêtus de rayons comme d'une gale. C'était tout glorieux, quoi. Vous voyez, il y avait une subtilité, une agilité, une luminosité, une impassibilité. Je voyais un large flot de lumière sortir de la bouche d'Adam et sur son front une auréole de majesté. Autour de sa bouche, c'était comme un soleil de rayons. Et je vis leur cœur exactement comme celui des hommes d'aujourd'hui, mais les rayons enveloppaient leur poitrine. Vous voyez, c'est comme une espèce de chaleur rayonnante, lumineuse de Dieu qui était en eux. Et au milieu du cœur chacun, je voyais une auréole brillante, la sainteté, dans laquelle se tenait une petite figure. C'était Saint-Esprit, qui semblait serrer quelque chose dans la main. Saint-Esprit, qui tenait en sa main l'unité des deux. Comme quelque chose, vous voyez. Je pense que cela représentait la troisième personne de la divinité, bien sûr. De leurs mains et de leurs pieds, je voyais aussi jaillir des rayons lumineux, leurs cheveux retombaient sur la tête en mèches lumineuses. Adam tendit la main à elle, quittèrent le lieu de la création d'Ève pour aller se promener au paradis. Et ce retour. C'est beau ça, ce passage. Mais le principe de la création, c'est Jérusalem. Et le lieu de la création où la torpeur est possible, c'est le paradis. Pour se promener au paradis, contemplant tout avec bonheur, ce lieu de la création d'Ève était le plus élevé du paradis. Tout y était splendide, splendeur, lumière, plus que partout ailleurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que on ne peut pas séparer la différenciation homme-femme du principe de la création. On ne peut pas séparer la création de l'homme et de la femme, et moi, j'allais dire, si je la signification responsable de mon corps masculin, je ne peux pas la saisir du dedans si je ne la saisis pas comme étant, si je puis dire, originé dans le principe. Et le principe, vous voyez, c'est le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible. Bereshit, Bara, Elohim. Atashemayim, Atashemayim. Dans le principe Bereshit, Dieu créa. Et Moïse explique que dans le principe, il y a une très grande richesse dans ce mot Bereshit. Et ce Bereshit est quelque chose dans lequel on est toujours, toujours réinstallé pour être créé. Torpeur. Et on ne peut pas séparer, notre masculinité de cette création du monde. C'est ce qu'on avait vu avec la mère. Si vraiment je veux découvrir la signification profonde de mon corps masculin et féminin, si je découvre que je suis pleinement femme, par exemple, et bien en même temps, je découvre en même temps que Dieu est en train de tout créer. Et que je suis face au monde et que je traverse le monde entier pour être en Dieu et en Dieu et dans le monde que j'ai entièrement traversé, si je peux dire, que j'ai entièrement séduit, que j'étais entièrement je suis abandonné, et cet abandon qui est lié, qui est un abandon féminin typiquement, et ben, est un abandon qui est en même temps divin et qui en même temps permet à la création d'être entièrement abandonnée et donnée. Et donner à celui que j'aime. Et la signification française du corps masculin ne peut pas être vécue tant que je n'ai pas incarné, incorporé. Et je pourrais dire presque même ressenti, vous voyez, comme j'aime pas ce mot d'habitude, ressenti à quel point, quand je laisse la liberté à Dieu me réintroduire par torpeur, par extase, par ravissement dans le centre de gravité qui est le mien, il me réintroduit dans la créateur qui est le sien et qui fait de moi le centre, le cœur, le roi de l'univers et celui d'où sort cette solitude profonde de la femme que je peux recevoir, du coup. Vous ne pouvez pas séparer, si vous voulez, la différenciation sexuelle de l'adoration. De l'adoration du Créateur. Et à ce moment-là, je peux assumer la solitude profonde du cœur de l'autre. Je peux assumer la solitude profonde du cœur, de mon cœur, dans la solitude profonde du cœur de l'autre. Et assumant ces deux solitudes, il y a une unité qui va commencer à apparaître. Mais je ne peux pas vivre de cette assomption. Vous voyez bien les mots comme ils sont très forts. Cette assomption de la solitude profonde du cœur de l'autre sans être entièrement reformé, réilluminé, réanimé, réimbibé, réimprégné, revivifié par la rédemption du Christ dans mon corps masculin, dans mon corps féminin. Et vous voyez, je vous ai lu ça parce que vous voyez bien qu'il y a une bénédiction de Dieu, il y a un germe qui est présent. Et je porte ma moitié responsable avant de l'aimer. Je la porte, elle émane de moi. Et elle ne peut apparaître dans la féminité de son corps, de même que moi, je ne peux voir apparaître la masculinité de mon corps, que si je comprends que j'ai été créé dans l'unité des deux avant d'être moi-même singulièrement différent ou face à ma moitié responsable. Si vous préférez, Dieu, lorsqu'il m'a créé, ne m'a pas créé pour moi-même. Il m'a créé pour un autre. Et cet autre, vous voyez, c'est fondamentalement c'est Adam. Cet autre, c'est le nouvel. Cet autre, c'est la femme. Cet autre, c'est le ciel. Et je suis créé, vous voyez, en portant avec moi ma moitié responsable, pleine, réelle. Et le jour où je la découvre, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a une chose, c'est que du coup, je vais découvrir ce que c'est que de vivre dans l'unité des deux. Mais je ne peux pas découvrir la signification dans ce constat, c'est-à-dire ce que je deviens comme homme, ce que je deviens comme femme, lorsque je suis entièrement écoulé, délicieusement disparu dans l'unité des deux. Je répète, lorsque je suis entièrement écoulé et délicieusement disparu dans l'unité des deux. Je répète, parce que j'ai entièrement écoulé, délicieusement répandu dans l'unité des deux, disparu dans l'unité des deux. Je ne peux pas découvrir ce que devient à ce moment-là la signification spontanée de mon corps si je n'ai pas la bénédiction chrétienne. C'est pour ça qu'il est impossible de vie de l'union du corps de l'homme et de la femme en dehors du sacrement. Sans le sacrement, il est strictement impossible de découvrir la signification sponsale de l'unité. Et je ne serai jamais pleinement homme et pleinement époux. Et je ne serai jamais pleinement femme. Et du coup, je vais, sans le sacrement, je suis réduit à aggraver la distance de l'angoisse. De l'angoisse. Et de la réduction à l'objet. Et les ravages de la concupiscence. Vous voyez. Pour ça, c'est pas du tout inutile de lire la Genèse. Ou de lire une espèce de targoum, parce que ça, c'est un targoum de la Genèse. Tout ce que je viens de vous lire, c'est dans la Genèse. Mais là, il y a des fleurs. Mais profondément, tout ce qui est là est dans la Genèse. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tout est dans la Bible, de toute façon. Il faut, et on voit bien que Adam et Ève eux-mêmes étaient conscients dans leur science infuse. Ils avaient pleine connaissance que c'était du Christ, que c'était de Marie, que c'était l'Immaculée qu'ils sentaient. C'est pourquoi l'unité sponsale était possible dans le premier homme et la première femme. Vous savez, dans le Bereshit, Moïse dit bien, dans le Bereshit, il y a cinq choses. Hein, on ne peut plus par cœur, mais il y a le temple, il y a l'impératif de l'amour de Dieu du prochain, la Torah, l'amour impératif de l'amour. Il y a le Saint des Saints, c'est le cœur ouvert du Christ. Il y a le Messie, il y a la plénitude de la grâce, il y a l'Immaculée Conception. Quoi. Enfin, dans le langage rabbinique, dans le principe, c'est à partir de cette espèce de vision de Dieu, de la création glorifiée, qu'il va créer les premiers éléments de matière, et même le monde angélique. L'origine pareil. La deuxième chose donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas vivre de sa sexualité, hein, spirituellement parlant, dans le bon centre de gravité, pour lui donner toute sa puissance, d'unité, d'accueil et d'échange dans le temps, dans la communion des personnes, pour un plein épanouissement de mon humanité d'époux et de mon humanité d'épouse, sans la plénitude de la grâce et sans revivre la plénitude que je peux retrouver naturellement parlant de ma liberté originelle dans le temps. Parce que ça, vous voyez, c'est très important de savoir que la signification sponsale du corps s'origine comme une source toujours ouverte en moi, dans mon corps, de la mémoire de la liberté totale, libre, consciente, amoureuse du don que j'ai vécu dans la conception et dans les 40 jours qui l'ont suivi, 9 mois avant ma naissance. J'ai encore cette puissance, celle que veut détruire l'Antichrist par l'abomination de la désolation. J'ai encore cette puissance. Le clonage, pas directement là-dessus, voyez, sur cette mémoire, pour que ce soit pas possible psychologiquement d'accepter de refaire mémoire physiquement cette liberté originelle dans l'ordre du temps, cette liberté de la connaissance, oui, liberté originelle de la connaissance de moi-même. Et c'est connu ça, et ça demeure. J'ai encore ce pouvoir, mais évidemment si je le plonge dans la grâce, donc c'est la présence vivante de Jésus en moi, par le fruit des sacrements, la présence vivante de toute l'Immaculée Conception en moi, par le fruit des sacrements, la présence vivante de l'unité totale, profonde, absolue, où ils disparaissent tous les deux, dans le trône du Père. Si je conjoins en fond ces deux aspects, je peux toucher le visage de ma femme. Je peux toucher le visage, si je suis un homme, je peux toucher, si je puis dire, le visage du Verbe de Dieu. Dans la Jérusalem céleste, dans la splendeur de la gloire. C'est vrai, c'est beau ça. Il faut retrouver quelque part cette liberté originelle du temps dans mon corps originel par une simple torpeur, ouais, m'endormir là, m'y reposer tranquillement, la joue posée ici, sur la terre vierge de ma création, sur la montagne du Bereshit. Ne vous inquiétez pas, mes parents, ils ont à l'origine était un petit peu en dehors de tout ça. Il s'occupait des carottes, il s'occupait de l'électricité, de la panne. Et il fallait balayer la maison. Donc c'était très loin, ils avaient fait ce qu'il fallait, mais il ne restait plus que ce poids ontologique de l'unité sponsale dans la tension des gamètes. Et dans les 19 heures de fécondation. C'est loin de tout ça. Il n'y avait pas d'interférence. Il n'y avait pas d'interférence. Il y avait juste ce qui restait de pur. Sur le plan strict du corps, la cervelle, il y a toujours, dans le point ontologique de l'unité sponsale du corps et de la femme avant la conception, une terre vierge, qui est la mère là-dedans. Et j'ai eu pour ça la même origine qu'Adam. Parce que cette unité sponsale qui se trouve dans la tension, j'allais dire moléculaire, intergamétique, qu'est-ce que vous voulez? Elle reste une terre vierge. Pourquoi? Parce que l'unité de l'homme et de la femme est créée par Dieu. Et ça, vous voyez, c'est un des enseignements qui est très important à comprendre, qui vient du pape Carole, et qui fait remarquer une chose que très peu de gens avaient remarqué auparavant, c'est que quand Dieu crée dans la Genèse l'homme et la femme, il est dit Dieu créa Bara Eloé, Zakar Onekeva, et Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa, homme et femme, il le créa. Zakar Onekeva, Bara. Donc il y a trois fois le mot bara, créa, ça veut dire bara, hein, bara en hébreu, c'est-à-dire Dieu crée, ça veut dire qu'il fait quelque chose existe et qui vient de son acte créateur à partir de rien. Donc il crée l'homme, Dieu crée l'homme à son image, il le créa, Zakar ou Nekeva, il le créa. Donc j'ai trois fois créa. Trois fois le verbe Dieu créa, et je vois que deux. Mais c'est pas inéant. Dès que vous sortez du yin-yang, ça sent le souffre. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de dualité. Il y a trois. Il n'y a pas deux, il y a trois. En fait, il y a un. Et puis il y a trois. Il y a un, et puis il y a trois. Il y a trois et un. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que, bien sûr, j'existe. Je suis suspendu à la créature de Dieu. La femme que j'aime, n'est-ce pas, existe aussi. Elle est suspendue à la créature de Dieu. Entièrement abandonnée, elle dit, ouais. C'est sûr. Mais dans l'unité des deux, il y a quelque chose qui est créé par Dieu, et qui n'est ni homme ni femme, et qui existe. Il existe dans l'origine, et il existe dans l'incarnation de la gloire. Si nous sommes hommes et femmes, c'est pour la création de la gloire. C'est pour la création du ciel. Il y a quelque chose qui existe dans l'unité. Et donc, ce qui appartient à la masculinité et à la féminité, dans la découverte expérimentale, surnaturelle, dans la torpeur du ravissement, et dans l'incarnation physique de mon corps, de l'intérieur du corps, je découvre l'unité. Je découvre qu'elle existe. Je découvre que c'est autre que moi, autre que ma moitié, autre que la conjonction des dieux dans la communion. C'est tout à fait autre chose. C'est troisième bar, c'est l'humanité intégrale où l'intégralité de la créateur de Dieu peut produire la gloire éternelle de la résurrection. Il y a quelque chose de très fort, vous comprenez, de la signification sponsale de l'unité. La dernière fois, j'avais essayé bien vaguement la signification sponsale de la solitude, mais vous voyez, vous sentez bien que j'essaie d'insister aujourd'hui sur la signification sponsale de l'unité. Pas la même chose, je ne découvre pas masculin de la même manière dans la signification sponsale de la solitude et aujourd'hui dans la signification sponsale de l'unité. Il y a donc trois réalité métaphysique, immortelle, éternelle, et en même temps, vous voyez, je suis seul. Et j'assume la solitude profonde de l'autre. Dans la plénitude de la grâce de Jésus et de Marie, et il y a quelque chose de beau là-dessus. Il y a un autre passage que je voulais vous lire. Le péché et ses conséquences. J'espère que je vais le retrouver. Parce que... Bon, alors, il voit la bête, là, vous voyez, cette espèce de serpent avec des pattes, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bon, etc., je passe. Lorsqu'Adam et Ève revinrent à l'endroit lumineux, une silhouette éclatante comme celle d'un homme majestueux aux cheveux blancs étincelants vint à eux et sembla leur donner tout ce qui les entourait. Vous voyez, après la tentation, hein, après la première tentation, il y a. Il leur dit, bon, maintenant, est-ce que vous voulez vivre la plénitude de cette spontanéité, de cette unité, dans la torpeur originelle, mais dans l'éveil d'une connaissance, et d'une liberté originelle du temps? Est-ce que vous voulez, ou est-ce que vous préférez rentrer dans une connaissance terrestre? Alors, une fois que cette proposition a été faite, que le serpent commence à se montrer, sans trop encore parler, alors arrive le Messie. Il vint à eux et sembla leur donner tout ce qui les entourait. Leur désignant tout en quelques mots et aussi, il leur ordonna quelque chose. Ils n'avaient nulle crainte et ils écoutaient avec candeur. Lorsque cette silhouette disparut, ils furent plus satisfaits encore qu'avant dans leur béatitude. Plus heureux, ils semblaient mieux comprendre et découvrir un ordre grandiose en toutes choses qu'ils voyaient, qu'ils possédaient. Et ils en éprouvaient une très vive reconnaissance puis. Mais Adam plus qu'Ève, Adam plus qu'Ève, l'homme plus que la femme. Je crois qu'ils se sont promenés trois fois dans le paradis. Puis je vis Adam sur la colline lumineuse où il avait été plongé dans le sommeil, donc c'est vraiment le paradis. Lorsque Dieu tira la femme de son côté, il rendit grâce et s'émerveillait. Il se tenait tout seul sous les arbres. C'est dans ces moments que Ève, là où elle se trouvait, commença à s'approcher de l'arbre de la connaissance. La bête était de nouveau près d'elle, plus agitée. Bon, c'est pas ça que je voulais vous lire, je m'excuse, je ne trouve plus, ça va venir. Accorder à Adam une bénédiction porteuse d'une faculté permettant à l'homme de se reproduire dans la sainteté et la pureté. Cette bénédiction fut retirée à Adam à cause de l'usage qu'il fit du fruit défendu, car je vis le Seigneur passer derrière Adam lorsque celui-ci quitta sa colline pour rejoindre Ève et il lui retira quelque chose. Et il me sembla que le salut du monde devait sortir de ce que Dieu avait repris à Adam. Un jour, à la fête de la Sainte et Immaculée Conception de Marie, Dieu m'accorda une vision de ce mystère. Je vis la vie physique et spirituelle de tous les hommes comme contenue à l'intérieur, en Adam et Ève, mais gâtée par la chute et mêlée au mal, ce dont les anges déchus tirèrent une très grande puissance. Et je vis également la seconde personne de la divinité descend vers Adam et lui retirer la bénédiction divine avec une lame recourbée avant qu'il consentît au péché. Au même moment, je vis la Vierge Marie sortir du côté d'Adam, comme une petite nuée lumineuse qui s'éleva vers Dieu. Lorsqu'Adam et Ève eurent consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils furent comme ivres. Et leur consentement au péché provoquera d'immenses changements en eux. Lorsque la réparation de la chute m'était montrée sous forme de vision, je voyais Ève, qui, à peine issue du côté d'Adam, tournait déjà la tête vers le fruit défendu et courait vers l'arbre pour l'entourer de ses bras. Mais je voyais en même temps, dans une vision opposée, comment Jésus, né de la Vierge Immaculée, se hâtait vers la croix et la serrait dans ses bras, et comment la descendance de nos premiers parents souillés et dispersés par la faute d'Ève retrouvait sa pureté grâce aux souffrances de Jésus. Vous voyez, je vous lis ça, ce petit passage, parce qu'ils sont très intéressants. Ils montrent que la signification sponsale du corps d'Adam et Ève dans la grâce originelle est pleinement libre. Elle est toute puissante. Elle a toute puissance sur Dieu, sur la création, sur eux et sur l'unité des deux. Mais aussitôt que Adam, qui est sur la colline de sa prière, entend la voix de la femme qui l'appelle. Il l'appelle de l'autre côté, là où il y a, vous savez, la fameuse vallée avec des fruits qui ressemble tout petit comme du froment blanc et palpitant comme du froment. Et lorsqu'il entend la voix d'Ève qui se trouve justement près du fameux arbre, il décide d'aller vers elle. Il décide d'aller vers elle. C'est à ce moment-là que le Verbe de Dieu, le Messie, qui leur avait tout donné, lui reprend la bénédiction. Reprend la bénédiction, c'est-à-dire quelque part, il reprend cette faculté qu'ils avaient tous les deux dans la bénédiction de éternelle de la résurrection qui lui était donnée en partage. Il lui reprend cette faculté de vivre immédiatement et quand il voulait, du troisième parent. Et cette bénédiction, et c'est pour ça qu'elle voit que c'est Marie Immaculée qui sort. Comme une petite nuée lumineuse, c'est l'Immaculée Conception, c'est pas mal. Et aussi la bénédiction du Christ, qui doit donner surnaturellement la gloire de la résurrection à l'unité sponsale des deux, pour qu'il n'y ait plus ni homme ni femme dans le ciel de la gloire et de la résurrection. Et cette bénédiction-là, qui est sortie d'Adam au moment avant même qu'il ait péché, mais au moment même où il entend la voix d'Ève, et qu'il entend. Vous savez, quand vous entendez la voix de quelqu'un, surtout dans la science infuse, vous êtes quand même capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La science infuse. Donc, il n'a pas péché, mais il a entendu la voix, ça suffit. Et il s'est bougé, il est sorti de la prière. Et bien, à partir de ce moment-là, l'humanité n'a plus accès directement au troisième bara, c'est-à-dire à cette solidité du corps spirituel venu d'en haut,